Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'ex-Yougoslavie va-t-elle renaître sur les terrains de football? La rumeur se fait de plus en plus persistante. Un nouveau championnat de football régional pourrait réunir la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie et la Macédoine. Les explications de Laurent Gélin.
Ces dernières semaines, les médias des Balkans bruissent des nouvelles les plus folles. Selon Vasco Dojsinovski, membre de la Fédération macédonienne de football, l'UEFA aurait approuvé la création à partir de l'automne 2018 d'une compétition rassemblant 24 clubs de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, de Serbie et de Slovénie. Ce tournoi pourrait ainsi réunir les équipes de la région n'ayant pas réussi à se qualifier pour les deux grandes compétitions européennes, la Ligue des Champions et la Coupe de l'UEFA. Le nouveau président de l'Union des associations européennes de football, le Slovène Alexander Čeferin, a pour le moment démenti la nouvelle, mais il en faudra plus pour mettre un terme aux spéculations. Car pour les fans de football des Balkans, la création d'une telle compétition, c'est l'espoir d'une renaissance de clubs mythiques comme l'Étoile Rouge et le Partizan de Belgrade en Serbie, le Dinamo Zagreb et le Hajduk Split en Croatie, dont le niveau s'est effondré depuis 20 ans. La première étape du projet semble bien avancée. Deux compétitions pour les équipes de jeunes de la région seront mises en place en 2018, avec pour objectif l'accompagnement et le développement des espoirs les plus prometteurs. Pour que l'expérience soit élargie, il faudra cependant éviter toute dérive nationaliste. Si elle parvient malgré tout à se mettre en place, la Ligue des Balkans serait un beau message de paix et de réconciliation pour la région.
Alors que les pics de pollution se succèdent dans les grandes capitales européennes, une série vient réveiller la mauvaise conscience des téléspectateurs néerlandais et flamands. La première saison de ce feuilleton télévisé intitulé « Les digues lâchent » raconte le chaos après une tempête extrêmement violente. Le pays qui se trouve en grande partie sous le niveau de la mer est alors submergé. Une fiction catastrophe qui a connu un immense succès à Rotterdam. Antoine Moutot.
L'histoire commence sur une plage de la côte néerlandaise. Le vent souffle très fort lorsqu'une dame un peu dépressive vient se ressourcer quelques instants sur la digue au bord de la mer. Elle regarde l'horizon et c'est là qu'un kitesurfer retire son attention. L'homme est propulsé contre la façade d'un immeuble. Les passants courent pour lui venir en aide, mais il est déjà trop tard. La tempête du siècle vient de faire sa première victime, la première d'une très longue liste. S'ensuit l'évacuation d'une partie de la Flandre occidentale en Belgique, également touchée par la tempête. Aux Pays-Bas, le gouvernement est pris de court.
Si nous évacuons pour rien les grandes villes du pays, nous risquons une crise économique sans précédent.
Par cupidité, le gouvernement refuse de faire évacuer la population des régions menacées par la tempête. Seuls les plus puissants sont évacués à temps.
La famille royale est encore à Vasnar.
Tu veux les faire évacuer ?
Ce serait raisonnable, mais discrètement. Je ne veux pas que ça fuite.
Entre-temps, face à la violence de la tempête, de nombreux Néerlandais commencent à paniquer et prennent la fuite. Et c'est à ce moment précis que tout bascule.
Les autorités fluviales confirment à l'instant qu'une partie du réseau de digues numéro 14 vient de céder à hauteur de Katwijk.
Très rapidement, les eaux envahissent le pays. La moitié des Pays-Bas et une partie de la côte belge sont englouties. En Belgique, la ville d'Ostende est dévastée. Aux Pays-Bas, c'est tout le centre économique du pays qui est pris au piège. Plus d'Amsterdam, plus de Rotterdam non plus. Toutes les villes en dessous du niveau de la mer disparaissent. Ingmar Menning est l'un des producteurs de la série.
Nous sommes un peuple qui vit sous le niveau de la mer. Sauf que pour que les gens en prennent vraiment conscience, il faut leur montrer leur ville recouverte de 3, 4, 5 mètres d'eau.
Entre les lignes, la série parle aussi beaucoup de problèmes de société. Les plus pauvres ou les plus fragiles, comme les personnes âgées, se noient ou restent livrés à eux-mêmes dans leurs barres d'immeubles. Les détenus, eux, sont oubliés dans les cellules de leur prison. Les plus riches arrivent plus facilement à fuir, mais tous les survivants deviennent des réfugiés climatiques. Une façon de rappeler aux spectateurs qu'ils pourraient eux aussi vivre un jour ce que vivent les réfugiés d'aujourd'hui.
Juste avant le tournage, on entendait beaucoup parler du problème des réfugiés du Moyen-Orient. Et ça a influencé évidemment la série.
Ast Dijkenbreke est une coproduction néerlando-belge. Elle a été très regardée aux Pays-Bas, mais aussi et surtout en Flandre, où environ un Flamand sur six a suivi la série. À La Panne, petite ville balnéaire de la côte belge, il ne faut pas chercher longtemps avant de trouver quelqu'un qui connaît la série. Comme ici, dans ce club de surf, Clara a suivi toute la première saison.
J'ai commencé à regarder un épisode de la série au moment où une petite fille est emportée par les eaux à Ostende. Je trouvais ça trop triste, alors j'ai voulu arrêter tout de suite, mais c'est tellement prenant que j'ai fini par regarder jusqu'au bout.
Rebecca, elle, a aussi aimé la série, même si elle ne l'a pas toujours trouvée très crédible.
Je pense que ce n'est pas très réaliste, c'est un peu exagéré. Les gens qui ne vivent pas sur la côte ont facilement peur, un peu comme il y a deux semaines pendant la dernière tempête. Mais avec mon mari, on habite au troisième étage et on a vraiment du mal à s'imaginer que l'eau puisse monter jusqu'à notre balcon.
Quoi qu'il en soit, la série intéresse déjà à l'étranger. Ses producteurs disent avoir reçu des demandes depuis plusieurs pays, notamment du Danemark, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France.
Et en Italie, les conséquences dramatiques du changement climatique ne sont pas une fiction. Depuis le 18 janvier, quatre fortes secousses sismiques et une avalanche ont touché le pays. Pour en parler, on retrouve la correspondante de RFI à Rome, Anne Lenir. Anne, bonjour. Comment tout d'abord les climatologues expliquent-ils ces catastrophes à répétition ?
Eh bien, tous rappellent que l'Italie fait partie des pays du sud de l'Europe qui sont les plus exposés au changement climatique et que plus d'un tiers de la population, soit 24 millions d'habitants, vit dans des zones à haut risque sismique. Mais déplore-t-il en cœur, la péninsule n'a pas développé une capacité d'adaptation face aux calamités naturelles. Or là, on assiste à une série d'événements qui prouvent la vulnérabilité du pays. Les régions centrales n'ont jamais été aussi enneigées depuis 1954. Les secousses sismiques s'enchaînent à un rythme sans précédent, soit près de 50 000, dont 4 de forte intensité, enregistrés depuis le tremblement de terre du 24 août, qui, rappelons-le, a fait 300 morts. Quant aux régions du sud, elles sont frappées par de violentes tempêtes, alors que dans le nord-ouest, la Ligurie, par exemple, est en proie à un mélange de vent glacial et de sécheresse qui a provoqué des incendies de forêt. Les effets du changement climatique sont vraiment très concrets.
Et au-delà du changement climatique, les Italiens s'interrogent aussi sur les moyens mis en place pour faire face à ces catastrophes. Visiblement, le pays n'est pas préparé.
Et tout à fait, ce qui rend la catastrophe de l'hôtel Rigopiano, construit au pied du Grand Sasso dans les Abruzzes, encore plus dramatique, eh bien, c'est que les morts auraient pu être évitées. Je signale le bilan actuel, 12 victimes et 17 disparus. Les alertes météo avaient annoncé 4 jours avant que 120 000 tonnes de neige n'ensevelissent l'établissement, des risques d'avalanche de niveau 4 sur une échelle qui en compte 5. Et les risques d'enneigement exceptionnels des régions des Abruzzes et des Marches étaient connus depuis le 7 janvier. Alors, il y a eu des dysfonctionnements dans la communication entre la protection civile qui dépend du gouvernement, les préfectures et les communes, ce qui a entraîné de graves retards. On a vu par exemple que les chasse-neige et fraises à neige étaient en nombre totalement insuffisant. Et comme les routes n'étaient pas déblayées, eh bien plus de 250 000 foyers ont été privés d'électricité, de téléphone ou de gaz pendant plus de 8 jours. Il semble que ni le séisme de L'Aquila en 2009 dans les Abruzzes, encore je le rappelle, ni les plus récents n'ont servi de leçon.
Et est-ce que l'ampleur des désastres pourrait enfin faire changer les politiques en matière de prévention ?
C'est ce que promet le gouvernement et il faut espérer que ce ne soit pas encore et toujours un peu l'histoire du guépard. Tout changer pour que rien ne change. Le président du Conseil, Paolo Gentiloni, garantit notamment que la protection civile va être réorganisée en profondeur pour avoir une large autonomie d'action en matière de prévention et d'intervention, ce qui semble absolument nécessaire pour une coordination plus fluide, plus efficace et donc plus rapide.
Merci Anne Lenir à Rome.
Det er en mand som Farouk, der jo netop tager Danmark til sig.
C'était il y a un an, à la surprise et l'indignation générale. Le gouvernement danois a adopté une loi qui permettait de saisir les biens des demandeurs d'asile lorsqu'ils dépassent 1400 euros. Une loi symbolique dont le but était clairement dissuasif. Un an après, le texte n'a été utilisé que 4 fois pour une saisie totale équivalente à 16 000 euros. Mais la ministre de l'Immigration et de l'Intégration à l'origine du texte a le vent en poupe. Inger Stoiberg est désormais une femme politique populaire. Son portrait est signé Anne-Françoise Hiver.
Lors du dernier remaniement du gouvernement en décembre, elle est une des 4 ministres à avoir conservé son portefeuille et pour cause, Inger Stoiberg, 43 ans, fille d'un couple d'agriculteurs de la province du Jutland, incarne la politique d'immigration du Parti libéral, une formation qui gouverne avec le soutien des populistes au Parlement. Pour cette diplômée en gestion des affaires qui a commencé la politique au lycée, tout est question de valeur, celle du royaume de 5,7 millions d'habitants qu'il faut protéger contre les influences extérieures et les tenants d'un multiculturalisme débridé. Elle en est fière. Sous sa direction, le Danemark a entériné le durcissement le plus marquant de sa politique de l'asile. Réduction de moitié des aides sociales aux nouveaux arrivants, limitation à 2 ans des permis de séjour pour les réfugiés, attente de 3 ans avant de pouvoir demander le regroupement familial. En septembre 2015, son ministère s'offre des pleines pages de pub en arabe dans les journaux libanais pour informer les candidats à l'asile qu'ils ne sont pas les bienvenus au Danemark. Sur Instagram, un chanteur de hip-hop la représente en Valkyrie nazie. Elle partage le dessin, constatant qu'elle aime sans doute plus sa musique qu'il n'apprécie sa politique. L'ironie comme mode de défense, elle suscite l'admiration même chez ses détracteurs. Elle vient d'ailleurs d'être couronnée pour la 2e année de suite leader d'opinion par un jury de journalistes et d'universitaires, de quoi lui faire oublier la décision d'un tribunal de Copenhague qui vient de blanchir 2 Danoises accusées de l'avoir traité de fasciste en mai dernier lors d'un de ses déplacements dans un quartier sensible de Copenhague. Contre l'avis du parquet, le juge a retenu que l'insulte ne visait pas la femme, mais la ministre et sa politique.
Quel est le monde des toxicomanes, des exclus, des perdus? Pour décrire cet univers marginal et ultra-violent, un éducateur de rue et un ancien détective privé de Charleroi en Belgique ont mené l'enquête et multiplié les interviews auprès d'une population qu'ils connaissent déjà bien. Ils en ont tiré un roman écrit à la première personne, 24 heures héros, sur le modèle de la série 24 heures chrono. Lakshmi Lota est allé rencontrer les 2 auteurs, Saphir Essiaf et Philippe Dilewski.
Devant vous, sur ma droite, vous voyez donc des personnes qui sont en train de faire la manche. Ben, elles ont besoin de trouver de l'argent pour pouvoir après aller se procurer de la drogue.
Nous sommes dans le quartier de la gare à Charleroi. Saphir Essiaf sillonne la ville depuis 10 ans comme éducateur de rue. Il travaille à la cellule SDF de la commune. C'est ici que se déroule 24 heures héros, coécrit avec Philippe Dilewski. Nadia et Arnaud vivent de squat en squat et d'héroïne. 24 heures héros racontent une journée de leur vie, trouver l'argent, trouver la drogue. Pour les descriptions, les auteurs ont choisi l'hyper-réalisme, notamment pour parler des symptômes du manque, des pensées qui assaillent les toxicomanes dans ces moments-là. Saphir Essiaf.
Vous savez, nous, on a interviewé peut-être à peu près plus de 200 personnes et les gars vous expliquent exactement comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Puis on en a croisé énormément qui étaient en train de consommer et qui parfois nous parlaient pendant leur consommation, donc ça leur gênait pas. Alors l'histoire du livre, on veut que les gens soient dans le corps, donc comme les jeux vidéo d'Arnaud et Nadia, et que en fait, quand Arnaud ou Nadia regardent quelque chose, c'est vous qui voyez cette chose. Et quand vous rentrez l'aiguille dans le bras, vous sentez cette aiguille. Donc ça, c'était quand même un objectif qui a été atteint. Maintenant, le reste, je vous ai dit, donc on a, pendant, je pense, 14 mois, on a vraiment suivi les gars. En plus de mon expérience du terrain, on les a suivis. Les gars étaient pleinement ouverts à exprimer ce qu'ils ressentaient, vraiment. et au-delà.
À ses côtés, Philippe Dilewski, psychologue, ancien détective privé. Tous deux se sont donc rendus dans des squats durant plusieurs mois pour recueillir au plus près la matière de leurs livres. Et c'est un monde parallèle qu'ils ont découvert, Philippe Dilewski.
C'est le thème majeur du livre, c'est qu'il y a une surface dans une ville que tout le monde connaît. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a un monde en dessous de cette ville. C'est un monde souterrain, parallèle, absolument incroyable, extraordinaire, qui est à côté de chez vous, qui est chez vous parfois. Parce qu'on est tombé sur des bâtiments où il y a des squats qui sont développés dans les cages d'escalier jusqu'à la cave. Vous faites 2 mètres et vous êtes sur une autre planète.
Ce monde souterrain existe dans toute grande ville européenne, dit l'écrivain. La vie décrite dans 24 heures héros est une vie de violence extrême contre soi-même, contre les autres.
Ultra violente, ultra déprimante, ultra incroyable. On peut pas le croire. On peut pas imaginer ce que c'est qu'un squat avant d'y être rentré parce que c'est un tel sommet de destruction que c'est inconcevable. Tout est détruit, brûlé, puant, saignant, merdeux. Tout ça.
Saphir Essiaf s'est bien sûr inspiré de son travail de tous les jours pour décrire la journée type du consommateur d'héroïne.
On n'a rien inventé. Nadia Arnaud existe. C'est une journée qui se répète sans fin, on va dire, donc continuellement.
Et les auteurs aimeraient changer le regard des citoyens sur les toxicomanes, rappeler qu'il s'agit d'une dépendance et donc d'une souffrance. Philippe Dilewski.
On n'a pas l'espoir que le citoyen lambda commence à se dire « Oh, pauvre toxicomane, comment font ? Il est mignon, il est gentil, je vais lui faire des bisous, etc. » Non, non, pas du tout. Simplement, regarder le gars, regarder la fille et se dire « Ça, c'est une personne qui vit dans un endroit où je ne jetterai même pas mes poubelles. » C'est vrai qu'approcher un toxicomane, personne n'a envie, il est sale, il pue, il peut être dangereux, il a l'air fou. Non, on n'attend pas ça, c'est juste, regarde-les, c'est des gens.
Cette expérience a changé la manière de travailler de Saphir Essiaf. L'éducateur affirme avoir encore plus d'empathie. Et malgré un roman très sombre, qui ne fait pas de concessions, il ne peut s'empêcher d'avoir de l'espoir.
Bien sûr, moi j'ai des gars à travers le livre, à travers l'écriture. Moi j'ai plusieurs gars qui ont rencontré et que je leur ai dit, moi j'espère un jour qu'on va se rencontrer pour prendre un café en dehors du cadre de l'aide sociale ou en dehors du cadre de la toxicomanie. Parce qu'il y a vraiment des gars avec qui on s'est attaché, des gars qu'on a trouvé vraiment attachants et intéressants et avec qui vraiment on pourrait imaginer une relation saine, une relation amicale où voilà, on va boire un café, on va rigoler un peu, mais complètement en dehors de sujet.
Les deux auteurs pensent déjà à la suite de 24 heures héros. Pour leur recherche cette fois, ils se rendront en Thaïlande dans un monastère de désintoxication.
Et 24 heures héros est publié aux éditions Fièvre Jaune.
It is essentially like a subway or tube system.
Un train qui pourrait passer le mur du son, ce n'est plus de la science-fiction, mais le projet bien réel du train Hyperloop, initié par le milliardaire américain Elon Musk. En Europe centrale, la République tchèque pourrait être intéressée par ce super train qui pourrait relier la Slovaquie à Prague. Alexis Rosenzweig.
Moins d'un quart d'heure pour relier Brno, la deuxième ville tchèque, à Bratislava, la capitale slovaque, distante d'un peu plus d'une centaine de kilomètres. Voilà ce que promettent les dirigeants de la société HTT, qui ont signé la semaine dernière un accord avec la municipalité tchèque. Cet accord doit permettre d'étudier la faisabilité de ce projet un peu fou, d'évaluer si le train Hyperloop pourrait fonctionner sur ce tracé et à plus long terme continuer vers l'ouest jusqu'à Prague et vers l'est jusqu'à Budapest. Les autorités tchèques restent un peu sceptiques. Les Slovaques croient davantage en ce concept qui consiste à propulser des passagers dans des capsules circulant sur des coussins d'air dans un tube à basse pression, le tout à une vitesse allant de 300 à 1200 km/h. Et les Slovaques ne sont pas les seuls à y croire. Plusieurs Émirats arabes espèrent aussi à l'avenir être reliés entre eux grâce au Hyperloop. Une dizaine d'années, c'est le temps qu'il faudra pour mener à terme les premières ébauches de ce chemin de fer du futur, en tout cas dans la version optimiste de HTT, stimulé par la concurrence d'autres sociétés sur ce créneau de train hyper rapide. Le prix de construction au kilomètre s'annonce cependant hyper élevé. Il y a donc de fortes chances de voyager en Europe centrale encore longtemps dans de bons vieux trains corail, dont le confort et la ponctualité ont été nettement améliorés ces dernières années.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point avec l'actualité, avec le journal de 14h.